VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le Congrès américain entame aujourd'hui une série d'auditions marathon dans le cadre de l'enquête en destitution contre le président Donald Trump avec 9 témoins programmés sur 3 jours, dont un ambassadeur qui intéresse au plus haut point les démocrates. Conseillers à la Maison-Blanche, diplomates et hauts responsables de l'administration vont défiler devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui mène au pas de course l'enquête contre le président américain. Leurs témoignages seront retransmis en direct à la télévision, comme ceux de 3 diplomates entendus la semaine dernière. Le but, c'est de permettre aux Américains de se forger leur opinion sur les efforts déployés par le président pour obtenir que l'Ukraine enquête sur un rival potentiel à la présidentielle de 2020. Et le président Trump a annoncé hier qu'il envisageait sérieusement lui-même de témoigner dans l'enquête parlementaire sur une éventuelle procédure de destitution contre lui. Les audiences publiques, je l'ai dit, se poursuivent au Congrès et plusieurs témoignages sont attendus cette semaine. Le point avec Eric Manirakiza.
La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a suggéré que je témoigne dans l'enquête bidon, a écrit M. Trump sur Twitter. Même si je n'ai rien fait de mal et n'aime pas porter de crédit à cette parodie de justice, a-t-il ajouté, je vais l'envisager sérieusement. Madame Pelosi lui avait reproché la veille de critiquer l'enquête sur les réseaux sociaux. Elle avait lancé sur une chaîne de télévision, s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il entend, il ne devrait pas tweeter, il devrait venir devant la commission et témoigner sous serment. Il peut aussi le faire par écrit, avait ajouté Madame Pelosi. Après 6 semaines d'audition à huis clos, les audiences sont maintenant publiques au Congrès. Le témoignage demain de Gordon Sondland, proche du président et ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, est très attendu. 7 autres témoins sont convoqués de mardi à jeudi, dont Kurt Volker, émissaire américain en Ukraine, ou Fiona Hill, ex-collaboratrice du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, limogé début septembre.
Merci Eric. Les États-Unis doivent renoncer à leur manœuvre conjointe avec Séoul une bonne fois pour toutes s'ils veulent une reprise du dialogue avec Pyongyang, a indiqué aujourd'hui la Corée du Nord après l'annonce du report de ses exercices militaires. Washington et Séoul ont présenté dimanche le report de ses manœuvres aériennes comme un geste de bonne volonté après des mois d'impasse dans les négociations internationales sur les programmes nucléaires et balistiques du Nord. Les Nord-Coréens présentent de longue date les exercices militaires américano-sud-coréens comme la répétition de l'invasion de leur territoire. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a estimé hier qu'il incombait au gouvernement de Hong Kong de rétablir le calme dans le territoire en prenant notamment des mesures claires pour répondre aux demandes de l'opinion. Pékin appelle notamment Washington à arrêter de faire des remarques irresponsables, arrêter de tolérer des agissements violents illégaux, d'arrêter d'interférer dans les affaires de Hong Kong et d'arrêter de se mêler aux affaires internes chinoises, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Geng Shuang, lors d'un point de presse.
Nos infos sur voaafrique.com.
Et sur le continent, Yaoundé estime que Washington s'est basé sur une version erronée des faits pour retirer au Cameroun son traitement commercial préférentiel en raison de violations des droits humains. Les États-Unis ignorent la réalité des faits sur le terrain en accusant le Cameroun de violation de ses droits, a affirmé le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans une réponse à la télévision d'État lundi soir. Le Cameroun fait face à un conflit meurtrier entre séparatistes anglophones et l'armée dans le sud-ouest et le nord-ouest qui a fait plus de 3000 morts, mais également à des attaques du groupe djihadiste Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Halt Ebola veut faire la différence dans la lutte contre Ebola. Cette organisation créée ici aux États-Unis même tente d'aider à mettre fin à l'épidémie qui a déjà tué plus de 2000 personnes en plus d'une année dans l'est de la République démocratique du Congo. Eddie Sango a rencontré ses animateurs ici même à Washington.
Pourquoi les États-Unis, suivant la réponse du vice-président des Halt Ebola, chargé des relations avec les gouvernements, le professeur en informatique, l'ingénieur Poli Mutombo.
Halt Ebola a été créé ici aux États-Unis pour pouvoir aider la population locale au Congo. Et ce que nous attendons des États-Unis, retenue, c'est la mobilisation du matériel et puis la mobilisation de fonds pour pouvoir non seulement acheter les équipements médicaux, mais aussi être capable de soutenir notre équipe qui est sur place au Congo.
Altebola vient donc rallonger la liste des organisations qui interviennent déjà sur le terrain. Mais quelle est sa particularité? Réponse de l'épidémiologiste basé au Canada, le docteur Frank Poyo.
Altebola, c'est une vision nouvelle, c'est-à-dire c'est une vision pour la communauté et par la population locale. C'est ça qui est très différent de ce que nous avons toujours assisté dans beaucoup des épidémies qui se sont passées dans les années antérieures. Ce qui est plus particulier de Altebola, c'est une action communautaire par la population locale elle-même. C'est-à-dire, ils ont la responsabilité de faire les actions. C'est-à-dire, nous, au niveau des États-Unis, par exemple, nous n'allons pas décider de quoi on doit faire sur le plan local. C'est la population elle-même qui va voir dans quelle direction pour arrêter cette épidémie.
Pour cette organisation, la réticence des populations locales envers les opérations de lutte contre Ebola s'explique. Elle est liée au ressentiment à l'endroit des organisations internationales. Explication de Pauli Mutombo.
Cette communauté a été isolée pendant très longtemps. Cette communauté a vu des gens venir tuer, violer, emporter tout ce qu'il y a comme ressources minières. Si cette communauté voit encore les mêmes individus venir avec des manteaux différents pour dire que voilà, nous sommes venus pour pouvoir vous aider, cette communauté n'a pas confiance. Ce que nous sommes en train de faire avec Altebola, c'est de pouvoir rétablir cette confiance, non seulement pour la communauté internationale, mais aussi pour la population locale.
Qui ramène Altebola en RDC, de nouveau, le docteur Mpoyo.
Nous avons un partnership avec une université à Texas. Là où il n'y a pas de centre de santé, par exemple, nous allons amener ces podcasts qui ont une technologie avancée et nous allons les implanter là où il n'y a pas des centres de santé, par exemple, où une femme et un enfant peuvent aller pour avoir des soins.
L'organisation prévoit d'aider à améliorer les systèmes sanitaires congolais en mettant en place, avec l'aide des nouvelles technologies, une banque de données en vue d'un suivi et d'un encadrement des malades et des personnes guéries.
C'était des membres de l'ONG Altebola lors d'une présentation ici à Washington. Merci à Heidi Sango. Des combats ont fait 24 morts dans les rangs de l'armée malienne et 17 dans ceux des djihadistes lundi dans l'est du Mali, dans un contexte de dégradation sécuritaire continue, a indiqué l'armée malienne sur les réseaux sociaux. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe contre les djihadistes quand une patrouille a été attaquée à Tabakort, a dit l'armée malienne. Les forces maliennes déplorent 24 morts, 29 blessés et des dégâts matériels. Côté ennemi, l'on dénombre 17 terroristes tués, une centaine de suspects appréhendés selon toujours l'armée malienne. L'état-major burkinabé a adressé le 15 novembre une correspondance à l'attaché de défense français, lui demandant d'avertir de tout déplacement d'avion 48 heures à l'avance, sinon ils seront considérés comme ennemis. Les détails de cette affaire avec Claire Morin-Gibou.
Le document est signé du chef d'état-major, le général Moïse Minindou. Des aéronefs non identifiés survolent nos bases et zones d'opération. Des instructions ont été données pour que ces aéronefs soient considérés comme ennemis, indique le document, spécifiant que tout déplacement aérien devra être annoncé 48 heures à l'avance. Selon le lieutenant-colonel burkinabé Ismaël Diouari, la lettre a été adressée à tous les attachés de défense étrangers et pas seulement à la France. Outre la France, qui a des drones et des mirages dans la région, les Américains ont également des drones au Niger. Selon une source militaire française, la lettre montre qu'il y a une certaine tension entre le Burkina et la France et des discussions sont en cours. L'armée française est présente au Burkina avec une base de 200 hommes des forces spéciales à Cambouinzin, en banlieue de Ouagadougou.
14 personnes ont été tuées par des voleurs de bétail dans une attaque de représailles dans le nord-ouest du Nigeria, en proie à une criminalité grandissante, a annoncé aujourd'hui la police nigériane. Des assaillants à moto ont fait irruption dans un village isolé de l'état de Zamfara dans la nuit de dimanche à lundi, tuant des habitants et incendiant des maisons. L'ancienne première dame du Sénégal, Colette Senghor, épouse de l'ancien président et chante de la négritude, Léopold Sédar Senghor, est décédée à l'âge de 93 ans à Verson, c'est dans l'ouest de la France, a annoncé la municipalité. Colette Senghor, née Hubert, avait épousé Léopold Sédar Senghor, alors député du Sénégal, le 18 octobre 1957. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.